Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Des semaines, des mois même que la situation se tend en Ukraine et pourrait dégénérer à tout instant en un conflit armé. Une guerre que pourtant personne ne prétend vouloir. L'Info C'est Clair est intitulé Ukraine, guerre imminente ou poker menteur. Nos invités, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste à France Inter, spécialiste des affaires internationales. Marie-Cécile Na, vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, auteur de Géopolitique des États-Unis, c'est aux éditions Erol. Et Georgina Wright, vous êtes directrice du programme Europe à l'Institut Montaigne. Merci de participer à cette émission en direct. Donc la Maison-Blanche a choisi la tension en évoquant une intervention russe imminente en Ukraine. Une déclaration considérée comme une provocation par Vladimir Poutine, sujet de Julien Gall.
Entraînement des troupes de Vladimir Poutine en Biélorussie. Manœuvre navale russe en mer Noire. 20h hier soir à Washington, les États-Unis voient rouge.
Tout Américain présent en Ukraine doit partir dès que possible et en tout état de cause dans les 24 à 48 heures. Le risque est désormais suffisamment élevé et la menace suffisamment immédiate pour que la prudence s'impose.
Spéculation provocatrice, hystérie américaine, rétorque la Russie. Alors les États-Unis dramatisent-ils ? L'ambassade américaine à Kiev a ordonné le départ de l'essentiel de son personnel. Quelques 160 soldats américains qui entraînent les forces ukrainiennes ont également dû partir. En France, le ministère des Affaires étrangères déconseille à ses ressortissants de voyager en Ukraine, sans pour autant leur recommander de quitter le sol ukrainien.
Alors Anthony Bélanger, les Américains ont même fermé leur ambassade à Kiev. La question est toute simple, je reprends le titre. Guerre imminente ou poker menteur ? Vous n'avez pas deux heures
hein, pour répondre. Non, poker menteur, ça c'est sûr. Poker menteur, ça c'est absolument certain. L'un jouant la conspiration du silence, je pense à Vladimir Poutine, qui en fait, grosso modo, ne communique quasiment pas sur ses mouvements de troupes. Enfin, il n'a pas besoin de ça d'ailleurs, parce qu'il suffit, vous savez qu'il y a des satellites qui survolent absolument l'ensemble du monde et qu'il suffit qu'il bouge un début de commencement de camion pour que l'Europe entière le sache. Mais d'un côté, vous avez une Russie qui dit les affaires continuent, nous avons déplacé des hommes parce que nous faisons des manœuvres militaires aussi bien en Bélarus qu'en Ukraine. On l'oublie toujours, mais aussi en Transnistrie, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Ukraine, côté européen, du côté de la Moldavie. Et puis vous avez les Américains qui, à l'inverse, essayent de publiciser le plus possible ce qui se passe pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne pourra pas les prendre en défaut d'avoir prévenu le monde si jamais il se passe quelque chose. Par contre, on oubliera qu'ils ont été alarmistes si jamais il ne se passe rien ou, ou s'il y a une désescalade. Et la deuxième raison, c'est qu'ils veulent absolument montrer, il y a une raison évidente, ils veulent absolument montrer d'une part qu'on n'obtient rien en menaçant l'Europe et les États-Unis, et certainement pas, et donc on aura tout gagné à éloigner les négociations futures sur l'architecture de défense européenne de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, ils veulent créer là pour l'instant une séquence crise, et puis on verra plus tard. Mais à l'heure des États-Unis, une séquence négociation, certainement pas en même temps.
Mais Marie-Cécile, là, on est quand même surpris de voir les Américains, qui sont des gens très bien informés, habitués de ce genre de conflit, crier au loup, au loup, au loup. On a l'impression de se dire, mais est-ce qu'ils ont un agenda caché à nous dire la guerre, c'est pour demain? Là, ça fait des semaines qu'ils nous disent ça.
Oui, c'est très intéressant, avec une montée un peu ce week-end, où on nous disait sur toutes les chaînes d'information américaines que pendant les Jeux Olympiques à Pékin, les Russes allaient en profiter pour envahir l'Ukraine. Il y a un jeu un peu... intéressant à observer d'un partage des rôles qui est de moins en moins un partage des rôles d'ailleurs entre Anthony Blinken, le secrétaire d'État, qui était plus celui de la négociation, du dialogue, l'image de compétence, de technicité, la diplomatie on va dire, et puis Biden qui depuis presque le départ eh bien, se met dans les habits d'un président de la guerre froide, alors que lui-même veut absolument en sortir, a compris que le nouvel ordre mondial, c'était plus ça, mais c'est comme si on était rattrapé par les vieux réflexes. Et de plus en plus, Blinken et Biden s'alignent sur le fait de dire qu'il y a un énorme danger, etc., etc. Donc c'est un partage des rôles qui n'en est plus un visiblement, mais qui était très stratégique. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire... on vous aura prévenu, on est prêt. Puis c'est aussi un peu une manière de dire à Vladimir Poutine, vous êtes sûr vraiment? Nous, on a un budget militaire qui est 10 fois le vôtre. Est-ce que vraiment vous voulez y aller? Et la difficulté maintenant pour Poutine, c'est d'éviter la guerre sans perdre la face. Et donc là, c'est toute la question dans les prochaines heures, dans les prochains jours.
Georgina Wright, comment décryptez-vous quand même l'implication des Américains et l'alarmisme des Américains sur ce conflit en Ukraine, d'autant que j'allais dire, pour les Américains, l'Ukraine, c'est très loin. Enfin, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont incapables de situer l'Ukraine sur une carte.
Bah, c'est très loin, certes, mais ça pourrait être un conflit majeur. L'Europe en guerre, c'est pas ce que les Américains veulent maintenant. Et je pense que personne n'est dans la tête de Poutine. On ne peut pas savoir ce qui va se passer au cours des prochains jours. Maintenant, clairement, les Américains et les Britanniques, par ailleurs, considèrent la menace, la position russe menaçante et croissante, et que même si la Russie n'envahit pas, il y a un risque de menace hybride majeur et qu'il faut être en position pour y répondre. Et c'est pour ça qu'on voit finalement une approche qui est diverse. Donc il y a le dialogue, on peut revenir dessus, évidemment, le dialogue. Il y a aussi le fait que l'OTAN, on renforce l'OTAN, les troupes aux frontières, et également...
Vous dites que les Américains voient dans ce conflit ukrainien l'occasion de resserrer un peu l'OTAN, de remontrer au monde l'utilité, aux pays de l'OTAN, l'utilité de cette alliance. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait dit que ça ne sert plus à rien, c'est un état de mort cérébrale, l'OTAN.
Clairement, les Américains, les Britanniques et d'ailleurs les Français aussi disent que l'OTAN a son rôle à jouer, un garant de la sécurité européenne. Mais je pense que la dissuasion, ils veulent décourager par avance une attaque, un coup de force contre l'Ukraine. Et que clairement, il s'agissait de faire ça.
Vous-même, vous y croyez ou pas? Parce que beaucoup de gens disent, en fait, on montre les muscles et comme ça, on n'a pas besoin de les utiliser. On a... démonstration de force, vos forces.
La joie d'être une analyste, c'est que moi, je n'ai pas de position, je ne fais qu'analyser la situation. Mais par contre, ce que je vois vraiment, c'est qu'il y a des consultations entre les Américains, avec les Européens, avec les alliés de l'OTAN, qu'on ne voit pas habituellement. Ces consultations régulières, quotidiennes. On voit qu'il y a effectivement cette approche de dissuasion. Les Européens, les Américains qui disent « Attendez, mais si la Russie, si vous envahissez l'Ukraine, il y aura des conséquences majeures. Il y aura des sanctions majeures, bien plus des sanctions, un paquet de sanctions qui est bien plus massif que ce qu'on a vu en 2014 après l'annexion de la Crimée. » Donc, ils envoient des signaux.
Anthony Bélanger.
Ajouter qu'en fait, ce qui est fascinant avec ce qui se passe, c'est que effectivement, on entend beaucoup Biden parler, parce qu'il y a une manière de faire groupir, vous savez, autour de soi, quand on a une alliance qui est supposée être en mort cérébrale, comme disait il y a quelques années.
Comme disait Emmanuel Macron, l'OTAN. Bien,
c'est le moyen de la rassembler. On voit en ce moment que tout le monde se parle, c'est justement de parler haut et fort et d'expliquer et d'essayer de compter les divisions, justement.
Et d'avoir un ennemi commun.
Oui, d'avoir un ennemi commun. Mais il y a une autre chose qui est très intéressante. C'est que les États-Unis ne risquent rien dans l'affaire. C'est-à-dire que c'est d'autant plus facile pour eux qu'ils n'ont quasiment aucun commerce avec la Russie. Ils n'achètent à la Russie quoi que de la vodka et des matrioshka, point barre. Et donc, ils n'ont pas de gaz et de pétrole en échange avec eux. Ils ont effectivement des alliés qui, eux, sont au premier rang concernés, mais eux, sécuritairement, économiquement et politiquement, n'ont pas grand-chose à risquer. Et en plus, vous le disiez vous-même, et c'est très intéressant, ils n'ont même pas militairement l'impression d'être challengés. Parce que l'armée russe, it's not a match. L'armée russe ne compte pour rien par rapport à l'armée américaine. Encore une fois, le budget de la militaire de la Russie, c'est un dixième de celui des États-Unis.
Et pour autant, Biden ne veut absolument pas de cette guerre. Il sait très bien que le coût, certes financier, mais surtout humain, psychologique, politique pour lui serait très, 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 très mauvais. Enfin, il n'a rien à gagner à faire cette guerre. Il n'en veut pas, même si, évidemment, il n'a aucune inquiétude à avoir si jamais elle devait s'enclencher par rapport à la supériorité des forces américaines. Mais on n'est plus... On a changé d'époque. L'engagement militaire au sol des États-Unis dans une grande guerre, ce n'est pas après être parti de l'Afghanistan et l'Irak qu'on va revenir. Donc oui, il fait monter la pression, mais il ne veut absolument pas cette guerre, Biden. Et l'Europe non plus, d'ailleurs.
Surtout l'Europe.
Oui, Georgina Wright.
Non, mais j'allais rajouter simplement que pour les Américains aussi, il y a une réalité, c'est qu'aucun pays européen n'est capable à lui seul de faire face à la Russie et de négocier. Et donc, c'est pour ça qu'on voit une consultation aussi des Américains et des Européens, c'est se dire on ne peut pas vous laisser seul.
D'accord. Donc et là, les Européens se disent finalement, avoir des Américains, c'est bien pratique face à l'ogre russe. Hein. C'est ce que vous voulez dire.
C'est Poutine qui le leur a rappelé.
Alors, on va passer en revue là. On a bien parlé du point de vue américain. Maintenant, le point de vue des Européens. On commence par un pays qui a toujours une relation spéciale avec les États-Unis. Je veux parler de la Grande-Bretagne. On a une Grande-Bretagne qui... un Joe Biden qui est en écho de ce que, un Boris Johnson qui est en écho de ce que disait Joe Biden, lui aussi a un ton très alarmiste. On va revoir une image, c'était en 2003, c'était Tony Blair et George Bush qu'on avait qualifié à l'époque, vous voyez, rien que la La scénographie est intéressante. Hein. Tony Blair est derrière George Bush qui déjeune. On avait qualifié Tony Blair de toutou de George Bush. Est-ce que c'est la même dynamique qui est à l'œuvre aujourd'hui, Marie-Cécile Nave? On a un Boris Johnson à la remorque de la diplomatie américaine.
Oui, d'autant que le Royaume-Uni n'est plus...
dans l'Union européenne.
La Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne. Et la différence quand même avec 2003, c'est que tous les deux voulaient aller faire la guerre en Irak. Aujourd'hui, aucun des deux ne veut y aller. Mais effectivement, il y a le même discours, le même storytelling de l'alarmisme vis-à-vis de la Russie. Et surtout ne montrer aucune divergence, être très très précautionneux de montrer aucune divergence de la part de Boris Johnson vis-à-vis de l'administration américaine, parce qu'il a absolument besoin d'elle pour tout un tas de raisons économiques, stratégiques dans le monde depuis qu'il n'est plus dans l'Union européenne.
Donc Londres est clairement une espèce d'ambassade américaine en Europe Non mais c'est vrai, c'est le porte-parole de ce que dit Joe Biden, mais avec notre fuseau horaire.
Non, quand même, on ne peut pas dire ça. Non, il y a une chose qui est très importante pour comprendre l'attitude des Anglais, c'est que ces dernières années, en fait, l'armée russe n'a cessé de tester l'armée britannique, la marine, et sur la marine, notamment la marine britannique. Il y a eu un moment récemment quand même où les forces russes ont quasiment encerclé entièrement, on pèse à des manœuvres, enfin quand même, les îles britanniques. On l'a pas su. Enfin, c'est pas qu'on l'a pas su, c'est qu'il faut regarder, il faut s'intéresser aux affaires militaires pour se rendre compte.
Il y a une histoire d'empoisonnement aussi. Hein.
Oui, alors d'abord, d'une part, les Russes ont des méthodes un tout petit peu sauvages quand il s'agit de traquer leurs espions qui sont réfugiés en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est l'endroit où se réfugient énormément de milliardaires. Vous savez, quand vous gagnez un premier million, en Russie, vous allez à Chypre. À partir de 10 millions, vous allez en Grande-Bretagne pour les planquer. Donc, en fait, il y a des rapports très à la fois nombreux et heurtés avec la Grande-Bretagne, qui a été la plus violente ces dernières années. Je rappelle, en fait, l'affaire Skripal, hein, vis-à-vis de la Grande-Bretagne, et qui donc est vent debout à la fois contre les tentatives et les provocations russes à ses frontières ou dans ses mers. En ce moment, il y a des manœuvres militaires, des manœuvres navales russes qui se passent en mer d'Irlande, je rappelle. Donc le premier pays à pouvoir être véritablement inquiet des incursions russes sur son territoire, c'est vraiment la Grande-Bretagne, et qui a pris l'habitude d'être extrêmement dur avec Vladimir Poutine. Et par ailleurs, effectivement, vous l'avez noté, il y a une syntonie absolue dès qu'il y a un problème entre les Britanniques et les Américains, parce que
l'armée
britannique, ouais, pas seulement, l'armée britannique est interdépendante et a choisi de l'être il y a 40 ans avec l'armée américaine. Pas question de montrer, vous l'avez dit, un début de commencement de différence entre les deux pays.
Alors, les Américains ont officiellement demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. Ils ont fermé leur ambassade. Pas la France, hein, les Français restent en Ukraine et n'ont pas l'intention de rentrer. Vous voyez ces deux communautés au travers de ce reportage de Dorothée Oliric, Luc Lacroix et Christophe Kenk, qui sont en Ukraine.
Ce matin, à l'aéroport de Kiev, des dizaines d'expatriés quittent l'Ukraine. Quelques Français, beaucoup d'Américains qui obéissent un peu tristes aux consignes de la Maison-Blanche, partir.
Je ne veux pas croire qu'une guerre va arriver. J'espère vraiment qu'on va éviter ça. Mais tout est possible.
La plupart des pays font la même recommandation. Européens, Israéliens ou encore Marocains se prestent à l'enregistrement.
90% des Marocains que je connais et qui étudient en Ukraine ont pris un vol pour le retour au Maroc. Voilà.
Face à ces départs ou encore aux rumeurs d'offensives russes, les autorités ukrainiennes appellent au calme, demandent de ne pas semer la panique. Côté français, pas de consigne de départ. Bertrand Barrier est le président de la Chambre de commerce. Il suit de près l'évolution de la situation, mais reste serein.
Aujourd'hui, la communauté française et la communauté d'affaires en particulier choisissent plutôt de garder le calme et d'attendre des évolutions concrètes de la situation.
Ouais. Georgina Wright, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une appréciation française de la situation qui est moins alarmiste, qui est propre à la France, quoi?
Moi, je dirais, je pense qu'il y a plus d'unité, que ce soit entre la France, l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni, qu'on pourrait croire en lisant les journaux. Je pense que, et ça c'est de pas, enfin, notamment grâce à la consultation qui est, comme je disais avant, quotidienne, et à tout le niveau des ministères, enfin, il y a plusieurs ministères qui se parlent vraiment au sein de l'OTAN. Je dirais le dialogue avec la Russie, il y a un appui complet pour le dialogue entre la Russie et les États-Unis, mais il y a évidemment l'OTAN qui a son propre dialogue avec la Russie, il y a l'OSCE où la Pologne maintenant est en train de présider, et puis il y a évidemment le président qui est allé rencontrer président Poutine et évidemment le président ukrainien. Donc je pense qu'il y a une divergence en termes d'approche et en termes d'alarmisme.
D'alarmisme, d'accord.
Je pense qu'elle est là, mais en termes de le fait que la position russe est menaçante et croissante et qu'on n'est pas dans la tête de Poutine, tout le monde partage.
Opinion partagée, mais avec moins d'alarmisme côté français, c'est ce que vous nous dites. Approche.
Je pense que l'approche est différente. Effectivement, il n'y a pas eu une demande que pour tout le personnel diplomatique de quitter l'Ukraine. Maintenant, quand on regarde que ce soit les États-Unis ou même le Royaume-Uni, il y a du personnel qui continue à être actif en Ukraine.
D'accord. Mais Marie-Cécile Lave, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement le poids de l'histoire ? La France, dans l'histoire, a toujours été un pays plus ou moins ami des Russes. Dans l'histoire, les Américains, pour eux, les Russes, c'est l'URSS, quoi. C'est l'ennemi du XXe siècle. Est-ce que ça ne compte pas, ça, ces rapports
Il y a eu la guerre froide entre-temps quand même.
Il y a eu la guerre froide. Mais même nous, on achetait du gaz russe à Brejnev, je me souviens, dans les années 80.
On continue d'en acheter d'ailleurs, voilà. En Union européenne. Jean-Yves Le Drian était semblait un peu plus inquiet dans ses propos que les jours précédents. Enfin, d'après ce que
j'ai lu. Donc il n'y a pas une approche française très spécifique du conflit en Ukraine.
Il y a une approche française aujourd'hui dans la personne d'Emmanuel Macron parce que c'est la présidence française de l'Union européenne, parce qu'il est en campagne électorale et qu'il veut aussi consolider sa stature d'homme d'État à l'international. Je crois que ça joue énormément. Mais là, il faut vraiment raisonner en termes d'Europe. Vis-à-vis de la Russie. Et d'ailleurs, c'est une des choses que Vladimir Poutine a sous-estimé, l'unité de l'Europe, l'unité des alliés occidentaux. Il misait beaucoup plus que ce n'est le cas aujourd'hui, évidemment, sur la division. Il pensait qu'il y aurait que les intérêts stratégiques des uns et des autres l'emporteraient sur l'unité, par exemple, sur la question allemande, la Pologne aussi, avec la conférence de Weimar récemment, la semaine dernière.
Les Polonais qui sont très durs, très anti-russes.
Il y a un front anti-russe qui est vraiment très, très présent et que Poutine avait vraisemblablement sous-estimé.
Alors, il essaye, il essaye quand même de diviser l'Europe. Par exemple, il a suffi que Mario Draghi, Premier ministre italien, appelle Vladimir Poutine pour s'assurer que le gaz russe arrive bien en Italie pour que tout à coup, on voit arriver deux fois plus de gaz en Italie. Donc, on voit bien qu'il essaye. Par contre, ce qui est vrai dans ce que vous disiez, c'est qu'il y a quand même une appétence française pour discuter avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron l'a vu quand même une dizaine de fois au cours de son mandat, d'une part. Et d'autre part, c'est le seul endroit où M. Zelensky et M. Poutine se sont rencontrés, c'est à Paris, en décembre 2019.
Le président ukrainien et le président russe.
Donc, on a fait à Vladimir Poutine, effectivement, les honneurs de
Versailles
au moment du tricentenaire de la visite de Pierre Ier, de Pierre le Grand. Je ne suis pas sûr que c'était une réussite, mais enfin, c'est une autre affaire. Et puis, on lui a fait les honneurs de Brégançon. Ce sont des gestes symboliques, mais d'abord, Vladimir Poutine adore ça. C'est quelqu'un de très orgueilleux. Il aime qu'on lui montre...
C'est un tsar.
Et il a notamment détesté avoir été repoussé hors du G8, qui est redevenu, depuis 2014 et l'invasion de la Crimée, un G7. Donc, il y a à la fois une affaire personnelle, et c'est effectivement un engagement français qui, à mon avis, est de bonne politique. Il faut discuter avec la Russie. C'est quand même le meilleur moyen d'avoir une idée ou de prévenir des crises de ce genre.
Alors justement, retour sur cet engagement français vis-à-vis de Vladimir Poutine. Donc Emmanuel Macron s'est entretenu quand même 5 heures la semaine dernière avec Vladimir Poutine avant de rencontrer le président ukrainien le lendemain. Retour sur cette visite au cœur du conflit, Hugo Capelli et Anne Bourse.
Après Moscou, Kiev. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron s'y rend pour aller rencontrer le président Zelensky. La France réitère son soutien à l'Ukraine.
La France s'est déterminée, monsieur le président, à poursuivre inlassablement ses efforts de médiation entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin au conflit.
Nous apprécions les objectifs d'Emmanuel Macron et de Paris pour atteindre l'objectif de la paix en Ukraine. C'était d'ailleurs une question clé de nos discussions. Hier soir à Moscou, le climat était moins serein. Emmanuel Macron était reçu par Vladimir Poutine au Kremlin. L'échange autour de cette immense table dure plus de 5 heures. L'armée russe est aux portes de l'Ukraine. Alors Emmanuel Macron cherche à apaiser la situation et son homologue ne ferme pas la porte à des compromis. Mais Vladimir Poutine prévient, si l'Ukraine rejoint l'OTAN et tente de récupérer la Crimée,
vous serez entraîné dans un conflit. Vous n'aurez même pas le temps de réagir.
La visite diplomatique d'Emmanuel Macron s'achève ce soir à Berlin. Au programme, un entretien avec le chancelier allemand.
Georgina Wright, est-ce que Emmanuel Macron peut dire, avec un peu de fierté, c'est finalement là, il montre que c'est le patron de l'Europe et que le départ d'Angela Merkel lui a donné ce rôle de quel numéro en Europe va appeler M. Macron, tiens.
Écoutez, je suis pas dans la tête du président. Maintenant, je pense que pour le président...
Non, mais la perception même qu'on peut en avoir...
Je pense que pour le président de la République, il y a deux objectifs. Un, cette réalisation que, en fait... Aucun pays, je le disais avant, aucun pays européen n'est capable seul de confronter la Russie et qu'il faut travailler ensemble. Et donc, quoi qu'il arrive, donc même si la Russie n'envahit pas l'Ukraine, il faut que la France ait son mot à dire sur ce qui se passe sur le continent européen. Et on le voit d'ailleurs, il y a le chancelier allemand qui est également doit rencontrer le président Poutine aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que le président français. Alors, deux, il y a la France qui a la présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle dans l'organisation, dans les réunions, elle préside les réunions avec les États membres. Et donc, il y a un rôle qu'il a donné, que la France doit jouer. Et je pense, troisièmement, qu'à terme, effectivement, il y a cette réflexion, il faudra renforcer nos capacités de l'Union européenne pour répondre à ce genre de menaces, que ce soit une menace militaire, une menace hybride. Mais ça, c'est dans le long terme. Mais je pense que pour le président de la République, effectivement, il fallait qu'il soit présent, il fallait qu'il essaye d'entrer en dialogue bilatéral et évidemment d'appuyer toutes les consultations qui sont en cours. Maintenant, comment ça a été perçu? Je pense que les Européens au départ étaient un peu méfiants de par tout ce qui s'est passé par le passé, le fait que la France ait effectivement dit qu'il fallait avoir un dialogue avec la Russie, qu'il y a d'autres États membres qui préfèrent ne pas avoir de dialogue et d'appuyer sur la dissuasion. Mais je pense que grâce aux consultations, cette méfiance s'est un peu atténuée.
Marie-Cécile Nave, on a eu l'impression, et on nous l'a expliqué au début de ce conflit, que ça se réglait entre Vladimir Poutine et Joe Biden. C'était un conflit qui concernait l'Europe et que nous, on n'avait pas voix au chapitre. Est-ce que Emmanuel Macron a corrigé cette perception? Et oui, on a l'impression qu'il a incarné et qu'il incarne en quelque sorte la position européenne, ou est-ce que c'est une vision franco-française et un peu cocardière de dire ça?
Ça a joué certainement, d'autant que, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, le changement de chancelier en Allemagne a laissé un peu de marge, de champ libre au président français. Et puis, Olaf Scholz a été un peu accusé d'être disons mou, c'est ce qu'on a lu un peu dans la presse par rapport à Poutine sur la question du gaz, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Il a dit, par exemple, le gaz, c'est une affaire privée, c'est pas une affaire géopolitique, alors que c'est une géopolitique du gaz aussi, cette crise. Le président Macron, certainement, a voulu marquer un peu des points pour prendre un peu le pas sur un peu l'ascendant peut-être sur Olaf Scholz. Il en a profité, mais c'est d'une manière générale, ça profite à tout le monde, effectivement, le dialogue qu'il a eu avec Poutine, avec cette mise en scène très humiliante que c'est faire Poutine, hein, cette grande table. On se souvient qu'il avait déjà humilié Angela Merkel avec le chien qui se promenait.
Angela Merkel est terrifiée par les chiens et donc il n'avait rien trouvé de mieux à faire. Voilà. Que de
promener un chien,
son chien devant Angela Merkel.
Il s'est humilié, en tout cas, il s'est essayé d'humilier, je ne pense pas que ça ait marché, ses interlocuteurs. Donc on voit bien qu'on est dans la psychologie, dans le bluff aussi parfois, mais certainement que le rôle du président français a joué en faveur d'une négociation commune.
On parle souvent du couple franco-allemand. En l'occurrence, là, est-ce qu'on peut parler de position alignée? Est-ce que les Allemands ont une relation plus ambiguë, plus compliquée ou plus... ils sont plus dans la compromission vis-à-vis de l'ours russe qui est près d'eux.
On a chacun son rôle
histoire.
Chacun a son rôle à jouer. La France adore voir son président aller se balader partout dans le monde et aller résoudre des problèmes et aller donc en l'occurrence être le premier à rendre visite à Vladimir Poutine et passer 5 heures avec lui. On adore voir ça parce que c'est pour ça qu'on élit un président et c'est comme ça que nos institutions sont bâties. C'est pas du tout comme ça que réagissent les Allemands. Ça ne signifie pas de jeu collectif, hein, parce qu'après, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est d'en rapporter à tout le monde et de voir un peu où on en était. Les Allemands, eux, ont tout à fait une autre attitude, surtout les Allemands sociaux-démocrates vis-à-vis de la Russie. Les sociodémocrates allemands ont dans leur ADN la discussion et les traités avec la Russie. C'est eux qui, dans les années 70, ont initié l'Ostpolitik, c'est-à-dire la politique d'ouverture et de détente vers l'Est, en signant traité après traité avec les Russes de manière à graver dans le marbre ce rapprochement entre les deux pays. C'est eux qui ont commencé, ces sociodémocrates allemands, et bien cette politique qui a conduit à la, ensuite, on pourrait dire à très longue échéance, à la chute de l'Union soviétique. Donc ils sont un peu, ils ont un peu ça dans leur ADN. Cette discussion, cette méfiance, ce rapport plus amical avec la Russie, plus nuancé avec la Russie
moins
que les Américains.
Ils sont moins dans la confrontation. Ouais.
Que les Américains, les Anglo-Saxons, ou, enfin les Anglais, pardon, et même d'une certaine manière, et moins personnels que les Français, ils ont ça chevillé au corps. Il faut le comprendre. Je rappelle que un chancelier social-démocrate allemand, Gerhard Schröder, oui. Et marge au conseil d'administration de Gazprom.
Ça n'avait, le producteur de gaz russe.
Ça avait fait.
L'ancien chancelier SPD, il est au conseil d'administration
SPD, de
Gazprom.
SPD, c'est-à-dire social-démocrate. Imaginez si, je ne sais pas moi, Dominique Strauss-Kahn ou même François Hollande, tout à coup, elle est margée chez Gazprom. Le scandale que ça ferait. Ça n'a pas fait de scandale plus que ça en Allemagne. On a considéré que c'était une des façons.
De
louer des relations qui sont indispensables. Les Allemands n'oublient pas que la Russie est entrée jusqu'à Berlin et a détruit leur territoire et qu'une guerre avec l'Allemagne la Russie est une mauvaise idée.
Alors, les Allemands sont très dépendants du gaz russe. Ils ont même créé un énorme gazoduc, le fameux Nord Stream 2, pour acheminer directement du gaz russe vers l'Allemagne et pour que les Allemands puissent se chauffer l'hiver. Sauf que Joe Biden, la semaine dernière, recevait Olaf Scholz et à la douche froide, c'est la douche froide pour les Allemands. Joe Biden a dit, si jamais ça dégénère, on coupe ce gazoduc, on coupe Nord Stream 2. On écoute le président américain.
Il est clair qu'en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, le projet du gazoduc Nord Stream 2 échouera.
Marie-Cécile Nave, c'est très humiliant ça pour les Allemands. Enfin, moi, j'imagine mal. Emmanuel Macron allant à Washington et s'entendant dire par le président américain s'il se passe ci ou ça, vous fermez tel gazoduc et vous fermez l'aéroport Charles de Gaulle.
C'est une manière de dire à l'Allemagne qu'elle doit s'aligner avec le camp occidental et ne pas jouer de jeu trouble avec la Russie précisément pour la question du gaz. Donc oui, le gaz, c'est très important pour l'Allemagne, mais pour l'Union européenne d'une manière générale. 40% du gaz de l'Union européenne vient de Russie. Ce qui nous pose des questions sur la mise en place d'énergie renouvelable pour décarboniser aussi notre manière les sources d'énergie que nous avons. Et évidemment, c'est une force pour Poutine parce que le gaz russe passe par la Biélorussie, passe par l'Ukraine et aussi par la mer Baltique avec le Nord Stream 1 et peut-être bientôt le Nord Stream 2. Donc il sait très bien qu'il a ce moyen de pression sur l'Union européenne qui, elle, pourrait décider de s'approvisionner ailleurs, donc avec du gaz liquéfié qui pourrait venir des méthaniers américains, mais ce n'est pas les États-Unis qui décident.
C'est le cas quand même.
Donc ça ferait monter aussi le prix du gaz dans le monde. Donc il y a tout un jeu géopolitique de domino extrêmement imprévisible sur cette question du gaz, mais c'est aussi l'occasion pour l'Union européenne de se dire, est-ce que finalement notre dépendance au gaz russe d'une part et au gaz d'une manière générale n'est plus...
Une faiblesse.
C'est une faiblesse, c'est l'occasion de penser d'autres formes d'énergie au niveau européen.
Georgina Wright, quel jeu vient jouer le gaz dans cette affaire? Alors, juste quand même pour info, on s'aperçoit, en janvier, le GNL, alors c'est du gaz liquéfié, qui vient des États-Unis, a remplacé le gaz russe manquant. Est-ce qu'on peut imaginer que les Américains se disent, tiens, on va faire en sorte que les Européens n'achètent plus de gaz aux Russes? Mais du coup, on va leur refourguer, leur exporter notre gaz de schiste.
Écoutez, moi, de nouveau, je ne suis pas dans la tête de l'administration américaine. Ce que je dis, c'est que cette demande américaine, elle n'est pas nouvelle. Ça fait des années, même Trump le disait. Donc, je veux dire, ce n'est pas quelque chose que
arrêtez d'acheter du gaz russe.
Ou en tout cas, réduisez votre dépendance sur le gaz russe. Parce que c'est une question de sécurité. Donc, ce n'est pas une demande qui est nouvelle. Maintenant, je pense que la question d'énergie et cette dépendance russe, elle est majeure pour l'Union européenne. Que clairement, ça un réveil géopolitique pour l'Europe, non seulement en termes de est-ce qu'on peut à terme être en capacité de répondre à ce genre d'attaque, que ce soit militaire ou cyber hybride, mais également comment est-ce qu'on envisage notre politique d'énergie dans le long terme. On est dans l'énergie renouvelable, en France on parle beaucoup de nucléaire. Qu'en est-il pour l'Allemagne et pour le gaz? Donc, je pense que voilà. Et la troisième, je pense, la psychologie allemande aussi. Il faut se rappeler que le peuple n'est pas très pro-intervention militaire et qu'eux, ils veulent absolument une action collective. Et c'est pour ça qu'on voit l'Allemagne, elle n'a pas été complètement absente hein, pendant cette crise, complètement impliquée dans les discussions de l'OTAN, impliquée dans les discussions au sein de l'Union européenne pour ces sanctions qui, par ailleurs, auraient vraiment beaucoup d'enjeux pour l'Allemagne. Plus peut-être que d'autres États membres. Oui. Donc je pense qu'il ne faut pas penser que l'Allemagne a complètement été soft. Peut-être qu'ils ont été plus lents. Le chancelier a peut-être pris plus de temps pour aller en Ukraine et en Russie. Maintenant, ils ont été impliqués dans les discussions multilatérales.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, Olaf Scholz est à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Oui, sur cette dimension énergétique du conflit.
Alors,
quand on parle guerre, l'énergie n'est jamais loin.
Oui, d'abord, si vous avez aimé l'augmentation du gaz qui est de 75% depuis, par rapport à l'année dernière, ces dernières semaines, s'il y a une guerre en Ukraine, vous allez adorer ce qui va se passer. Parce que alors, je peux vous dire que les Russes vont commencer par couper le gaz pour faire exploser le prix du gaz. Et on risque, en pleine campagne électorale française, de payer le gaz deux à trois fois ce qu'il coûte aujourd'hui.
Et comme le prix d'électricité est aligné sur le prix du gaz, dans la foulée,
le prix de l'électricité va monter. Ce n'est pas la seule chose que nous importons de Russie. Nous importons aussi beaucoup de pétrole. C'est normal, c'est eux qui ont les matières premières. C'est nous qui avons les usines, c'est eux qui ont le gaz, c'est nous qui avons froid. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça quand on me dit toujours, au fond, la relation commerciale est équilibrée, nous on paye le gaz, ils l'ont. Non, c'est eux qui ont le gaz, c'est nous qui avons froid. Donc c'est pas du tout, et c'est-à-dire pas pour rien que cette crise intervient en plein hiver, justement. Parce que si la démonstration doit être faite de la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe, eh bien il faut la faire maintenant, au moment où ça coûte le plus cher. Je voulais juste ajouter une chose assez amusante, c'est que les Américains, depuis plusieurs semaines, depuis 9 ans en fait, ont créé une Tiger Team au sein de la Maison Blanche, une équipe tigre chargée de voir un peu tous les problèmes que pourrait poser une guerre en Ukraine. Et dans cette Tiger Team, il y a notamment une Tiger Team gaz qui a parcouru le monde, de l'Australie au Qatar, en passant effectivement par les États-Unis, pour savoir si on pouvait remplacer pièce pour pièce, enfin en tout cas litre de gaz par litre de gaz, mètre cube de gaz par mètre cube de gaz, le gaz consommé en Europe. Ils sont arrivés à la conclusion que pour une partie d'entre ce gaz pourrait être remplacé par du GNL.
Le gaz de schiste américain qui est liquéfié aux États-Unis.
Et que d'une part, les États-Unis n'ont pas les capacités de gazéfication assez importantes pour pouvoir remplacer mètre cube par mètre cube. Et que d'autre part, en Europe, nous n'avons pas non plus les capacités de dégazéification du gaz qui viendrait des États-Unis, d'Australie ou du Qatar.
Il n'empêche que, je vous raconte pas le prix. Techniquement, c'est un marché qui s'ouvre pour le gaz de schiste américain.
Depuis 10 ans, une des inquiétudes de Vladimir Poutine, c'est justement ça. Tous les pays qui sont dépendants ou ultra-dépendants au gaz russe sont en train de s'équiper d'usines de dégazéification ou de se relier à des réseaux de dégazéification. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, cette crise a lieu en ce moment même. C'est un peu comme si Poutine se disait « c'est maintenant ou jamais ». Parce que dans 5 ou 10 ans, les investissements pourront rendre à terme l'Europe indépendante ou en tout cas autosuffisante. Indépendante du gaz russe, si jamais il devait y avoir un conflit.
Marie-Cécile Neuf, c'est incroyable. En 2003, on avait dit, tiens, il y a des enjeux pétroliers derrière ce qui se passe. Et là, il y a des enjeux gaziers derrière ce qui se passe.
J'y pensais, effectivement, cette question du pétrole avec la guerre en Irak. Ouais. Effectivement, oui, le gaz, c'est un des enjeux majeurs de cette crise. Il y a le Qatar aussi dans le jeu.
Le Qatar serait prêt à remplacer les Russes pour nous fournir son gaz.
Oui, absolument. Gaz liquéfié aussi, donc il faut le transformer.
Il faut avoir des infrastructures et on ne les a pas encore.
On ne les a pas encore, mais au niveau des États-Unis, ce n'est pas l'État qui va décider que les entreprises privées qui exploitent le gaz vont aller... Voilà, en Europe, c'est un marché privé et en plus c'est un marché qui donne qui vend au plus offrant. C'est-à-dire les méthaniers, quand ils arrivent dans l'Atlantique, si on leur dit non, revenez plutôt vers l'Asie parce que c'est l'Asie qui achète surtout le gaz américain.
Ils changent de direction.
Parce que nous on l'achètera plus cher, notamment le Japon, ils peuvent repartir. Donc c'est un marché qui est extrêmement fluctuant, incertain pour l'Europe.
En tous les cas, Vladimir Poutine s'est rappelé à notre bon souvenir. Il est au pouvoir depuis 22 ans. Il apparaît plus que jamais comme le maître du jeu. Il a rappelé au monde entier que la Russie avait une grande armée et une grande puissance géopolitique. Sujet d'Anne-Claire Poignard, Lucie Berbet et Zidane Berkous.
Entre Russes et Occidentaux, Le sort de l'Ukraine et l'avenir de la paix en Europe sont sur la table des négociations. La Russie entraîne ses troupes aux frontières de l'Ukraine. Pour les États-Unis, le scénario d'une invasion est possible à tout moment. L'Amérique promet des sanctions.
Je souligne que si la Russie choisit la voie de l'agression et envahit à nouveau l'Ukraine, les réponses des États-Unis et de nos alliés seront rapides, unies et sévères.
À son tour, l'Allemagne promet des sanctions immédiates en cas d'attaque. L'Union européenne, elle, précise que les sanctions frapperont les secteurs financiers et énergétiques russes. Mais à en croire l'un de ses ambassadeurs en Europe, la Russie se moque des sanctions occidentales.
Pardonnez-moi l'expression, mais nous n'en avons rien à foutre de toutes leurs sanctions.
Marie-Cécile Nave, en Russie, on peut dire qu'au moins on a retrouvé confiance en soi. Ça y est, on est redevenu cette grande puissance qu'on était au XXe siècle, au centre du jeu, et où Joe Biden s'assoit à la table des négociations face au maître du Kremlin.
Oui, il y a une part d'image internationale. On se souvient aussi des images de Vladimir Poutine à l'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin, où il est allé pour consolider sa stature internationale, alors que l'Occident a boycotté la cérémonie d'ouverture. Oui, ça fait partie. Mais on a l'impression qu'on rejoue une pièce démodée, en fait. C'est-à-dire qu'on a un pied sur un tapis roulant qui est le nouvel ordre mondial, des rapports de force qui ont complètement changé, et un pied qui reste au sol et qui est dans les années 50 ou 60. Peut-être encore un petit peu des années 70. Et c'est assez fou de voir que finalement, on a des vieux réflexes qui ne correspondent plus à comment fonctionne la planète aujourd'hui et les rapports géopolitiques.
Georgina Wright, est-ce qu'on peut imaginer que Vladimir Poutine agite aussi ce spectre d'une guerre en Ukraine, peut-être pour faire oublier les difficultés internes? On ne cesse de dire que la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. Sauf que la population, c'est 150 millions d'habitants. Donc, on imagine, ça fait un PIB par tête qui n'est pas fameux. On imagine que le quotidien des Russes ne doit pas être facile et qu'ils auraient des raisons d'en vouloir à leur président.
C'est tout à fait possible. Comme on parlait aussi de l'énergie, peut-être que c'est ça. Je ne suis pas dans la tête du président Poutine. Ce qui est absolument clair, c'est que la Russie nie toute velléité belliciste. À l'inverse, elle se dit, voilà, nous, on est menacés par l'expansion de l'OTAN. En Europe de l'Est, et on réclame des garanties de sécurité. Alors, clairement, comment ils agissent, en mettant des troupes, en stationnant des troupes à la frontière, etc., en menaçant, effectivement. Il y a aussi l'interprétation de l'accord de Minsk, l'Ukraine et la Russie qui ne voient pas de la même façon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cette configuration diplomatique, donc en format Normandie, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine est tellement importante. Maintenant, comme vous l'avez justement dit, on ne connaît pas les méthodes diplomatiques de dialogue. Est-ce qu'elles vont est-ce qu'on va s'assurer de ne pas voir un coup de force? Est-ce que ce sera assez pour arrêter la Russie dans son expansion? On ne sait pas. Et c'est là toute la question et ce réveil géopolitique pour l'Europe. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment se dote-t-elle à terme? Et comment est-ce qu'elle peut répondre à ce genre de menace si la Russie ne joue pas les mêmes règles?
Vous posez une question très importante. Très importante parce que c'est le regard porté sur la Russie.
Voilà.
C'est le regard porté sur la Russie.
Ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir. On a l'impression qu'il est au centre. Il inspire de la crainte à l'extérieur et de l'admiration à l'intérieur.
Rien de tout ça.
Ah bon.
De la part de Joe Biden, par exemple, qui est un homme de la guerre froide. Guerre froide gagnée par les États-Unis et qui en plus a été un membre éminent de l'administration Obama, qui regardait la Russie comme un pays de troisième zone. Pourquoi? Parce que l'armée russe n'avait rien à voir avec l'armée américaine. Donc on le répète, un dixième du budget de la. C'est un dixième du budget. L'armée russe, c'est un dixième du budget de l'armée américaine. Parce que la Russie ne vend rien aux États-Unis. Parce que la Russie, quand on regarde objectivement, effectivement, a le PIB de l'Espagne, avec une population trois fois moins importante que l'Espagne. C'est-à-dire que c'est un pays moyennement riche ou moyennement pauvre, comme vous voulez. Parce que, grosso modo, la Russie, pour les Américains, c'est un problème européen et rien de plus. Parce que l'essentiel de leurs enjeux stratégiques de demain, leur adversaire véritable, c'est la Chine. Donc, en fait, c'est vrai que cette espèce de mépris que Obama a exprimé et que Biden continue d'exprimer vis-à-vis de la Russie, ça te semble insupportable pour Vladimir Poutine, qui veut montrer que la Russie, ce n'est pas que ça, et que qu'il ne faut pas regarder la Russie uniquement avec ses, comment dire, comme si c'est comme un livre de compte, mais se rendre compte qu'elle a une capacité de nuisance extrêmement importante à l'échelle de la planète, et notamment pour les alliés états-uniens. C'est ce dont il fait la démonstration aujourd'hui. Nous ne sommes peut-être plus une puissance économique qui compte au sens où vous l'entendez, mais nous sommes une puissance de nuisance extrêmement importante. Ne nous négligez pas. En fait, d'une certaine manière, c'est ce qu'a fait Vladimir Poutine, la démonstration que sa capacité de nuisance était capable encore aujourd'hui de mobiliser le monde occidental, et y compris les États-Unis, sur les problèmes qu'il pose. C'est ça, la Russie. Ce n'est pas forcément une puissance objective, ce n'est même pas forcément une puissance économique, ni même géostratégique, c'est simplement une capacité de nuisance à nul autre pareil. Et notamment pour deux raisons qui sont très simples. C'est que, un, nous ne voulons pas la guerre en Europe. La Russie peut porter la guerre en Europe. Et deuxièmement, nous sommes dépendants des matières premières générales russes. C'est ce qu'on a fait, dont on a fait la démonstration tout à l'heure. Et donc, grosso modo, toutes les cartes sont entre les mains de Vladimir Poutine.
Oui, Marie-Cécile Nave.
Je ne dirais pas que Biden méprise Poutine, qui ne s'entendent pas, qui ne s'aiment pas. Ça vient des années Obama, de la Crimée, et puis des questions d'espionnage aussi.
De la Syrie, et du
rôle de la Russie dans le soutien peut-être aux équipes de Trump en 2016 pour les élections. Oui. Mais Biden a voulu rencontrer Vladimir Poutine dès qu'il est arrivé au pouvoir, Joe Biden. Ils se sont rencontrés. Et peut-être que les choses seraient pires aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette volonté de dialogue. Et puis, il y a d'autres dossiers géopolitiques. Il y a la question du nucléaire iranien. Oui, on va avoir aussi besoin en Occident de la Russie si on veut un nouvel accord. Il y a la question de la Syrie, du Moyen-Orient, où la Russie de Poutine, on le sait, a joué un rôle très important avec Assad. Donc il y a d'autres aussi dossiers qui font qu'on ne peut pas, du côté américain, afficher un mépris, afficher une condescendance vis-à-vis de la Russie, même si sans doute les deux hommes ne s'aiment pas beaucoup. Mais enfin, en diplomatie, on n'est pas pour s'aimer.
Georgina Wright, est-ce que quand même l'une des conséquences de ce que nous vivons en ce moment, de cette crise, est que on avait pu rêver que la Russie rejoigne le camp européen, le camp de la démocratie, ça rime à l'Occident, et est-ce que le risque, c'est que, on l'a vu, hein, Vladimir Poutine était aux Jeux Olympiques de Pékin, c'est que la Russie bascule de l'autre côté, du côté des pouvoirs autoritaires, oui. Et finalement se rapproche davantage de Pékin, oui, que de Bruxelles. Est-ce que, oui, c'est pas ça qui est en train de se jouer?
Il y a beaucoup de pays européens qui considèrent déjà le gouvernement russe comme autoritaire. Donc je pense que cette question-là, pour beaucoup de gens,
elle est
déjà tranchée. Maintenant, je pense qu'il y a un risque de mettre la Russie et la Chine dans le même sac. Mmh. Il y a des différences. Certes, on a vu un rapprochement au cours des dernières années, mais il y a aussi beaucoup de différences entre eux. Il y a aussi une question de dépendance, une question d'inégalité là en termes de puissance. Et je pense que la Russie, pour revenir un petit peu à cette réflexion de l'Ukraine, la Russie voit l'Ukraine faisant partie de son voisinage. Et pour Vladimir Poutine, ce serait un échec énorme, majeur, si l'Ukraine rejoint l'OTAN. Donc je crois que là, il y a des questions fondamentales en termes d'avenir pour l'Ukraine. Mais comme l'Ukraine et les dirigeants des pays européens et américains disent, il faut que ce soit l'Ukraine qui décide de son avenir.
D'autant que ce que veut la Russie n'est pas très très compliqué à comprendre. Elle reveut une ostopolitique, c'est-à-dire elle reveut des traités signés avec l'Europe et les États-Unis qui garantissent, c'est une espèce d'un glacis de pays, donc je prends en l'occurrence Biélorussie-Ukraine, une finlandisation de ces pays de manière à ce qu'ils n'entrent pas dans
l'Union soviétique.
Je pense qu'elle serait même prête à accepter par exemple qu'à terme l'Ukraine soit une nation associée, voire même membre de l'Union européenne, parce que ça, avoir une économie florissante une économie, les subventions européennes à ses portes, ce serait pas forcément une si mauvaise nouvelle que ça pour la Russie. Mais pour l'instant, elle veut surtout s'assurer, et par le traité, s'il vous plaît, pas par la parole donnée, que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN.
En tous les cas, bruit de bottes, plus que bruit de bottes même, en Ukraine, la Chine également se réarme comme jamais, et on n'a jamais autant parlé de la volonté chinoise de récupérer Taïwan. Donc on sait que la région Asie-Pacifique se réarme à vitesse grand V, et du coup, par ricochet, sans aucun cynisme, mais la France en profite pour vendre son avion qu'elle pensait invendable. Je veux parler du Rafale, le Rafale qui accumule les succès, dernier succès en date. C'est l'Indonésie qui a acheté 6 Rafales fermes et qui a passé une commande totale de 42 appareils. Je vous propose de revoir ce sujet du 3 décembre dernier d'Olivier Poncelet.
Pendant des années, c'était l'avion invendable. Mais depuis qu'on en a vendu 24 en Égypte en 2015, les ventes décollent. Jusqu'à 236 à ce jour. Une bonne nouvelle pour notre industrie, les Rafales vendues aux Émiratis seront tous fabriquées en France sur les 7 sites que possède Dassault sur notre territoire, dont celui-ci à Mérignac en Gironde. À la sortie de l'usine cet après-midi, les salariés semblent satisfaits.
On est très contents par cette commande et très contents de la charge que ça a représentée pour les équipes côté Rafale.
Ça veut dire que ça va y avoir du travail pendant encore pas mal de temps, donc oui, c'est une bonne nouvelle. Ouais.
Ces 80 Rafales, c'est une commande à 16 milliards d'euros, le plus gros contrat militaire français d'après Emmanuel Macron. Pour ce prix, nous vendons les avions bien sûr, mais aussi tous les armements qui vont avec, dont 2 milliards d'euros de missiles. Pour les entreprises concernées, c'est un peu le jackpot.
On va plus que doubler la chaîne de production du Rafale, donc ça représente des milliers d'emplois, non seulement chez Dassault et ses coopérants, Thales et Safran, mais sur les entreprises qui travaillent dans l'écosystème du Rafale. On a du travail avec ce contrat jusqu'en 2030.
Comment ces entreprises vont-elles se répartir le gâteau ? Pour chaque appareil, le partage est le même. Dassault en fabrique 60%, l'électricien Thales 22%, le motoriste Safran 18%. Sans compter leurs 400 sous-traitants. Tous devront augmenter leur cadence. L'objectif, produire non plus un, mais deux, puis le plus rapidement possible, trois Rafales par mois, voire davantage, si d'autres contrats sont signés dans le futur.
Alors Anthony Bélanger, pourquoi subitement la France se met à vendre des Rafales comme de petits pains ? C'est parce que subitement on s'est rendu compte que c'était un excellent avion et donc c'est un succès commercial de Dassault. Mmh. Ou est-ce que c'est un succès diplomatique de la France ? C'est parce que la voix de la France aujourd'hui fait que on se dit, tiens, je vais acheter des avions made in France, de l'armée française.
Pas partout, hein, parce que ça nous a coûté quelques sous-marins. Non, mais ce qui est sûr avec le Rafale, c'est qu'il a été testé, tout simplement. Il a été testé en Libye en 2011, et en 2011 et 12, et que donc les pays qui aujourd'hui l'ont d'abord acheté, l'ont d'abord vu en manœuvre. Et il faut d'abord...
Ah, la Libye a servi de...
Oui, enfin la Libye et d'autres théâtres d'opération, on a dû prêter des Rafales à droite à gauche pour permettre aux armées de se rendre compte qu'il n'y avait pas que c'était un avion qui pouvait être efficace en situation de combat. Première chose. Deuxième chose, il y a une chose très importante qu'on oublie de dire, c'est que les Français donnent beaucoup de choses en même temps que le Rafale. C'est-à-dire, ils donnent la possibilité à leurs armées de l'utiliser sans avoir constamment à en référer aux États-Unis.
Ah oui, parce que c'est un avion qui marche totalement indépendant des États-Unis, ce qui est unique.
Non seulement indépendant des États-Unis, mais une armée peut se l'approprier entièrement après avoir été formée pour et obtenu les
Je crois qu'il n'y a même pas de Windows pour vraiment que les Américains ne puissent rien bloquer.
En tout cas, que les armées en question puissent le prendre en charge. Par exemple, ce n'est pas le cas si vous achetez un F-35. Si vous achetez un F-35, les plans de vol sont quasiment faits aux États-Unis avant d'être rebidouillés par les armées locales. Enfin, c'est quand même un peu plus humiliant et un peu plus embêtant. Puis troisièmement, la France a toujours joué ce rôle de lièvre, c'est-à-dire on va acheter français, puis à la fin on achète américain, mais on aura fait baisser le prix des Américains, soit tout simplement de contre-achat sans vraiment fâcher les États-Unis. Il ne faut pas non plus se leurrer, hein. Les grosses commandes vont d'abord aux États-Unis. Nous servons d'armement, de complément, et aussi parce que les armées qui nous les commandent aujourd'hui ont déjà, depuis les années 50 ou 60, étaient travaillés au corps par Dassault et par notre industrie d'armement et ont déjà acquis soit des Mirages, soit des avions de remplacement, soit des Mirages, Et donc, ouais, ils ont déjà des équipes formées en France, ils ont l'habitude de venir
pas pour
chez nous. Et ils ont la garantie d'une flotte relativement indépendante et surtout de les avoir vite. Je pense à l'Inde, par exemple. L'Inde a fait voler dès cette année en formation, le jour de son indépendance, le jour anniversaire de son indépendance, un vol de Rafale. Donc 5 Rafales qu'elle venait d'obtenir. Ce qui signifie en fait une autonomie, ce qui montre bien qu'entre le moment de la livraison, qui était quelques semaines plus tôt, et le moment où ils entrent en service au sein de l'armée indienne, il y a une rapidité, une concomitance qu'on ne peut pas obtenir avec les Américains.
Alors, d'un mot, Marie-Sinna, parce que l'émission touche à sa fin. Dassault a l'entendu, mais les Américains, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Et dès qu'on est sur le point de vendre, ils interviennent et nous empêchent de vendre. Ils sont... Bon, voilà, c'est plus facile aujourd'hui. Il y a une voie pour la diplomatie française pour vendre ces avions.
Peut-être, mais ça peut aussi se retourner demain. Mais effectivement, oui, les Américains ont des lobbies extrêmement forts pour
imposer leurs avions.
Pour imposer. Le lobby militaro-industriel américain est déjà extrêmement fort dans la sphère politique américaine.
Donc ça témoigne de la perte d'influence des États-Unis, ce qui se passe ?
Non.
Attends, on écoute.
Faut pas nécessairement aller jusque-là. Et après, effectivement, il y a des liens historiques forts dans la confiance qu'on peut avoir dans une industrie nationale plutôt que dans une autre. Le cas de l'Indonésie, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne m'avancerai pas. Mais il ne faut pas sous-estimer le poids de l'influence diplomatique américaine en matière de lobby militaro-industriel.
Juste pour dire qu'ils ont des choses à se faire pardonner, les Américains. Souvenez-vous des sous-marins australiens. Donc en ce moment, ils nous accordent peut-être.
Ils nous laissent vendre 2-3 rafales.
Pas 2-3.
Pour faire passer la pilule du sous-marin.
Je le pense, sérieusement.
C'est une discussion pour l'Union européenne.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair qui est disponible gratuitement en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Bonne journée, à demain pour une nouvelle émission.